Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Quand à 33 ans, on décide de reprendre toute la vie de famille, d'aller ailleurs pour soigner sa blessure et qu'on se rend compte que finalement, eh bien, son pays, on ne le quitte jamais. Au contraire, on ne l'aime que plus fort. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Selma Greghi, bonjour.
Bonjour Lala Yasmine, merci pour l'invitation.
Merci à toi d'être ma femme d'aujourd'hui, quel plaisir de t'entendre. Normalement, tu habites tellement loin, mais là, on a la chance de t'avoir sur le sol national. Et justement, on peut sentir cette chaleur qui nous rapproche, en fait.
Effectivement, le pays d'érable est tellement loin, mais j'arrive souvent à faire l'aller-retour au Maroc-Canada, puis surtout pour organiser des événements assez importants, pour mettre en valeur mon pays, etc. Mais là, heureusement, on s'est trouvé un temps.
On s'est trouvé un petit moment, exactement.
Oui, oui.
Alors justement,
ça fait plaisir d'être avec vous.
Moi aussi. Selma, toi, tu es présidente du Conseil national de l'insertion des compétences marocaines du monde. C'est quoi exactement?
Alors, c'est un conseil qui a été créé en 2021 en réponse à l'invitation de Sidna Al-Hinsro pour justement inviter les Marocains du monde à contribuer et à investir leur temps et leurs moyens pour aider au développement du pays. Alors nous, on s'est dit, enfin, on a commencé, on était peu, hein, on était 4, après 14, après 20 personnes. Les uns ne croyaient pas en les autres. Tu sais, des petites initiatives comme ça, quand elles commencent tout doucement. Mmh. Mais maintenant, aujourd'hui, je peux te dire qu'on est plus de 250 000 compétences marocaines à travers le monde entier.
Et quand vous avez commencé, quand tu dis on était 4, c'était tous les 4, vous étiez au Canada même?
Absolument pas, on était dans le monde entier, parce que j'avais initié le conseil, je l'avais commencé moi-même, j'ai tout fait toute seule. Après, j'ai invité des gens, j'avais dit voilà, le concept, il est facile, il est tout simple. Nous, on met en valeur les compétences marocaines du monde et on leur dit voilà, votre pays a besoin de vous, vos compatriotes sont des compétences hors normes au Maroc, travaillons main dans la main. Mmh. Tout simple, il n'y a pas à compliquer les choses. Et puis, de fil en aiguille, nous sommes devenus maintenant plus de 250 000 personnes. Les adhésions sont très faciles. Il suffit d'envoyer un courriel et de dire, voilà, je veux rendre service à mon pays. Je veux être impliqué dans ceci et dans cela. Voilà mes forces, voilà mes compétences. Et on accepte les personnes de toutes compétences confondues. Et notre objectif, comme je le dis, je le répète, c'est ma phrase rengaine, c'est d'inviter les compétences marocaines du monde entier, de toute spécialité, de toute formation, à venir au Maroc et à investir leur temps et leurs moyens pour justement aider à cet extraordinaire chantier que le Maroc a alhamdoulilah, sous l'impulsion de Sa Majesté. On voit des choses extraordinaires.
Alors, ça, c'est ce que fait le conseil. Mais j'imagine que pour articuler tout ça sur le terrain, vous travaillez avec des institutions nationales marocaines.
Absolument. Alors, moi, je pars toujours du principe qu'il ne faut jamais outrepasser les institutions officielles. Et comme ça, on est, nous, protégés, hein, Marocains du monde. Et en même temps, le terrain est balisé. Mmh. C'est-à-dire que nous, quand on propose un projet, dernièrement, justement, on a organisé un événement. Donc, quand on propose un projet, on est bien être encadré, être accompagné, être aidé aussi par les institutions officielles et officieuses, hein, même officieuses. Hein, il n'y a pas que les officielles. Pour justement, pour assurer la réussite de nos événements et aussi pour assurer le lendemain de ces événements-là. Parce qu'il faut qu'il y ait un impact.
Bien sûr.
On ne peut pas organiser quelque chose et repartir, prendre des photos et repartir. Ça, je suis contre. Par contre, quand on vient ici, quand on propose quelque chose, quand on ramène un expert marocain qui vit à l'étranger, quand on le met en valeur, quand les gens viennent l'écouter, il faut qu'il y ait un lendemain. Il faut qu'il y ait un lendemain, il faut qu'il y ait un impact. Il faut qu'il y ait des aboutissements. Voilà.
Alors, par exemple, le conseil, il fait quoi exactement? Qu'est-ce qu'il a pu organiser comme événement? Ça, c'est pour qu'on comprenne ce que tu fais, et ensuite, on va revenir à ton histoire personnelle, bien sûr. Pardon.
Parfait. D'accord, parfait. Alors, nous, dans le fond, depuis 2021, qui était en plein Covid, nous étions en plein Covid, on avait organisé des conférences en ligne, nous avons organisé beaucoup de choses en ligne, en relation toujours avec on cogitait autour de que peut-on faire pour aider, que peut-on initier justement pour aider au développement du pays. Alors nous, on a organisé des événements au Canada et des événements au Maroc. Alors parmi les événements au Maroc, en 2024, nous avons organisé le congrès international de la pharmacie de demain. Alors, nous avons réuni tous les acteurs importants de la pharmacie, le Big Pharma, le président des fédérations, etc., etc., pour justement phosphorer et cogiter autour de la souveraineté du Maroc pour la fabrication des médicaments, autour de beaucoup de sujets importants concernant la pharmacie. Il y avait une experte avec nous, Dr Fatema Khayar, qui était de Belgique, et puis qui a ramené la société Fagron. Puis on avait parlé de l'installation de la société Fagron au Maroc, etc., etc. Et on l'avait organisé en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et pendant cet événement-là, nous avons signé une convention historique avec la Banque Populaire qui a fait confiance à un organisme qui fédère et qui réunit les compétences marocaines du monde. C'était une première. Mmh. D'ailleurs, ce sont maintenant nos partenaires officiels, ils nous aident et tout ça. En 2025, nous avons organisé le Salon international du branding des entreprises marocaines. Alors nous, on choisit vraiment des sujets qui sont très, très importants, qui sont d'actualité, et pour justement travailler avec les compétences, nos compatriotes, nos confrères, nos consoeurs. Et on dit toujours qu'on ne ramène pas la science infuse de l'extérieur. Barakallah, nos compétences marocaines, la yu'ala alayhim. Ce sont des compétences hors normes, ce sont des compétences qui sont très, 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 très prisées et voulues dans le monde entier. Hein. Ils se les arrachent, comme on dit, ils se les arrachent. Et nous, on a organisé à Agadir ce salon qui est très important, très, très important. Et on a eu un grand achalandage, on l'avait organisé à l'Université à Police. Bien sûr, on a rencontré des entrepreneurs d'envergure venant du monde et aussi du Maroc. Et cette année-là, il n'y a même pas une semaine, le 22 novembre, on a organisé un séminaire autour de la valorisation, de la structuration des cabinets dentaires au Maroc, bien sûr avec le partenariat officiel de la Banque Populaire et au sein même de la faculté de médecine dentaire de Rabat. Le professeur Nawal Bouchiaoui nous a ouvert les portes de son établissement. Je l'en remercie infiniment et c'est de là qu'on ressent Oulidat El Bled.
Alors, tout ça, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que tu fais aujourd'hui, tout ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Maintenant, ton histoire avec le Canada, ton histoire avec le départ du Maroc.
Ah là là là. Alors, franchement, juste pour te dire, Yasmine, moi, je n'ai jamais été dans le schéma de l'immigration. Jamais, jamais. D'ailleurs, j'ai immigré à 33 ans. Et à chaque fois que je le dis, ils m'ont dit « Ah bon ?» Tout le monde trouve ça étrange, que ce soit mes compatriotes, que ce soit les Canadiens. Mes enfants, ils étaient grands. La plus grande, elle avait 10 ans. Le plus petit avait 8 ans. Donc, ils étaient grands. Mais on a tenté l'aventure. On s'est dit « Bon, on va voir ailleurs comment ça se passe. » Vraiment, on était très bien installés, on avait une très bonne situation, mais on a décidé de tenter l'aventure parce qu'il y a certaines choses que je voulais explorer en moi, en moi-même. Voilà, je voulais vraiment voler mes propres ailes, commencer from scratch, comme ils disent, et puis refaire la refonte, refaire tous les piliers, les remodeler. Mais j'ai découvert que, en immigrant, je pouvais servir mon pays encore d'une façon meilleure.
Je peux revenir sur un point qui m'intéresse beaucoup, c'est quand tu dis j'ai voulu à 33 ans aller me découvrir. Et en fait, ce que moi j'ai entendu souvent à travers les différentes histoires de femmes que j'ai pu interviewer, c'est que ce retour à soi, cette retrouvaille avec soi, ce challenge de soi se fait entre soi et soi-même, c'est-à-dire qu'on va aller se pousser vers sur une activité, des études, un changement de cap professionnel. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire, en fait, j'ai pris, au lieu de femme et enfant, mari et enfant, et on est parti dans un autre pays parce que je voulais me reconnecter à moi-même, en fait.
Voilà. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi, avec mon mari, et nos enfants, on a choisi d'immigrer, pas par nécessité économique ou quoi que ce soit, pas parce qu'on est, on a tenté l'aventure, c'est ça. C'est dans notre couple, on est assez aventuriers. Mmh. C'était un rebirth. Je voulais le faire. Je voulais tenter ça. Je voulais voir jusqu'où moi j'étais capable d'aller pour me reconnecter avec moi-même, pour refaire connaissance avec moi. Mmh. Voilà.
Qu'est-ce qui te manquait justement ? Qu'est-ce qui te manquait ?
Alors voilà.
Et pourquoi tu n'as pas voulu le faire à petite échelle, c'est-à-dire te reconnecter à toi,
oui,
mais sans perturber, voilà.
Oui. C'est ça. Alors, bonne question. Alors, il y a une raison très, très personnelle parce que moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 21 ans et ma belle-mère aussi, la maman de mon mari, qui était deux anges sur terre, Allah yarhamhum. Mm-hmm. Et on n'avait plus ce port d'attache. C'est ça, c'est ce que j'aimerais souligner, le port d'attache. Et c'est très difficile pour moi parce que j'étais enfant unique et j'étais très, très attachée à ma mère. On avait une relation fusionnelle incroyable. Et j'ai trouvé ça très difficile de ne pas l'entendre, la voir dans le même pays. C'était un challenge pour moi, pour peut-être penser mes blessures. L'immigration, c'était surtout pour penser mes blessures. Je voulais m'éloigner de mes malheurs. On s'en éloigne jamais, hein, faut pas croire. Mais je voulais trouver une thérapie thérapie dans l'éloignement. Et je t'assure que c'est pas vrai. Quand on a une grande blessure profonde, elle ne guérit pas, mais on vit avec. Voilà, il faut essayer de vivre avec et vivre équilibré.
Mais alors, quand tu me dis, on n'avait plus d'attache, ta maman, la rahmaha, soufait, tu étais jeune, l'autre figure maternelle que tu avais, c'était ta belle-mère, M'shatandallah aussi, et donc voilà, à l'âge de 33 ans, finalement... peut-être que si je m'éloigne, j'irai mieux et pas d'attache parce qu'il n'y a plus ces deux figures. Mais finalement, j'ai l'impression que tu es devenue encore plus attachée parce que finalement, l'attache, c'est le sol. C'est le concept de la patrie que tu as emmené avec toi.
Absolument, absolument. J'ai le Maroc qui coule dans mon sang et tout ce qui est marocain chevillé au corps. D'ailleurs, je parle Maroc, 24 heures sur 24. Mm. Il y a des Canadiens qui sont venus voir le Maroc parce que je leur ai tellement raconté de belles choses sur le Maroc.
Ouais. Mais tu t'attendais finalement à être cette ambassadrice en partant alors que tu disais, ça y est, plus rien ne me rattache à ce pays.
Non, du tout. Je me disais, je vais faire ma petite vie. On va vivre ce qu'on aura à vivre et puis c'est tout. Mais dès que je suis arrivée, j'ai commencé à faire du bénévolat. J'ai commencé à rencontrer du monde. J'avais tenté une petite expérience québécoise de travail juste pour... tu sais, Yasmine, il faut les entendre parler, il faut comprendre, il faut une inclusion intelligente. Comme je dis toujours, il faut une inclusion intelligente à travers soit les études, soit le travail, soit le bénévolat. Moi, j'ai fait les deux. J'ai travaillé et j'ai fait du bénévolat. Mais à un moment donné, j'étais plus satisfaite de ce que j'avais. Je me disais, hey, Selma, crée-toi ta propre job, comme ils disent là-bas, ils disent une job. J'ai dit seulement, crée-toi ta propre job. Et j'ai créé de Fécom, une agence de communication, en 2012, qui n'allait pas fort, parce que bon, arabo-musulmane, femme, donc c'est pas, ils vont pas me faire confiance, hein, c'est quand même la communication. Et il y avait des mastodontes à mes côtés, il y avait des entreprises à casser de la brique. Hein. Mais petit à petit, et quand ils ont vu le sérieux, parce que quand même le Canada, c'est le pays de la méritocratie, alors là, fournissez un petit effort de 0,25 de ce qu'on peut fournir partout dans le monde, on est reconnu, hein, on est reconnu comme pas possible. Et de fil en aiguille, eh ben, ils ont commencé à me connaître, ils ont commencé à voir mon travail. Petit à petit, j'ai rempli mon carnet d'adresses. Je jouis maintenant de la confiance des hautes sphères. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je collabore avec de belles personnes. On fait de belles choses au Canada et par ricochet, hein, au Maroc. On ne va pas se mentir, ça facilite quand même un peu la tâche. Et autour de moi, il y a de belles compétences marocaines qui nous ont fait confiance. Et voilà, tu vois, j'ai construit quelque chose de rien du tout. Vraiment, je te le dis, hein, de rien du tout, de moins de zéro. Mais alhamdoulilah, ça a abouti parce qu'il y avait de la bonne foi, parce qu'il y avait de la volonté avant tout. Alhamdoulilah, il y avait de la volonté.
Alors, qu'est-ce que tu as pris sur toi? Parce que tout ça, tu l'as fait pour... Finalement, c'était pour toi, en fait. C'était pour guérir.
Oui,
mais tu as pris quoi sur toi?
Ah, mais j'ai appris beaucoup de choses. Alors, j'ai appris que j'étais une personne qui pouvait encaisser beaucoup de choses. Alors qu'avant, je me prenais pour une petite princesse fragile, fleur de peau. Pas du tout. Je me suis découverte forte. Je me suis découverte naturelle. Naturellement naturelle, vraiment. Je me suis découverte aussi des faiblesses, mais qui ne sont pas néfastes à ma personnalité, voilà, qui sont peut-être qui co-construisent avec mes forces ma personnalité. Alhamdoulilah. Alors parce qu'il faut y avoir des faiblesses et on doit avoir des faiblesses. Sinon on peut pas être parfait, on n'est pas des titans. On n'est pas fait de la roque ou du fer, non, du fer forgé, et on a des sensibilités. Et heureusement, moi, il y a beaucoup de gens qui me le disent, ils me disent tu es forte dans ta sensibilité. Et de la force, il y a un, l'iman billah, alhamdoulilah, on a ramené avec nous nos valeurs, et deux, l'iman bin nafs, parce que c'est un ricochet, hein, quand on croit en Dieu, on croit en nous. Et eux, au Canada, ils parlent beaucoup d'estime de soi, estime de soi, estime de soi. Ben, l'estime de soi, nous, on l'a dans l'islam. On a dans l'islam. Et donc, j'ai pu avoir les principes, ou les préceptes, ou les psychologues, et je suis très, très, très respectée à cause de ça. Ils sentent que quand la personne vient avec des principes et des valeurs et qu'elle les respecte, mais en même temps, c'est une personne très bien introduite, c'est très bien, elle est inclusive, cette personne, elle respecte les valeurs du pays où elle vit. Ben, alhamdoulilah, on s'en sort bien.
Absolument.
J'ai jamais été victime d'un acte raciste de ma vie là-bas, jamais. Pourquoi? Ben, parce que je respecte leurs valeurs et je les invite. Voilà, je les invite, j'impose rien du tout, je les invite à respecter mes valeurs et ça marche.
Absolument. En tout cas, Selma, tu as passé combien de temps ces derniers jours au Maroc?
Là, je suis à ma troisième semaine, alhamdoulilah, j'en suis à ma troisième semaine.
Et tu rentres bientôt?
Oui, il y a toujours dit que le « ah là là », ça va être difficile.
Ouais.
Alors, je voulais ajouter une petite chose, si ça peut servir
bien
à quelqu'un.
Bien sûr.
Alors, dans ma petite case force, moi j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2023.
Okay.
Et heureusement, avec la force, alhamdoulilah, la foi en Dieu, elle a fait que, bon, j'ai quand même écrit un livre et j'y raconte que comme quoi, alors, il faut se dire que sera, sera. Et qu'il n'y a rien qui va pouvoir nous abattre. Il faut faire face à tous les problèmes de la vie en croyant en soi et en étant toujours positif, toujours. Alhamdoulilah, on se dit, Rabbi, choukran, ya Rabbi, alhamdoulak, ou choukrak, je t'assure, Yasmine, c'était des moments très difficiles, mais je m'en suis sortie haut la main, je suis toujours en rémission, je suis toujours sous traitement, mais j'ai chose dans le cœur qui te dit, Selma, ne t'inquiète pas, tout ira bien.
Alhamdoulilah, Selma. Alhamdoulilah.
Ouais.
Et pendant toute cette période, tu n'as pas arrêté tes activités, si?
Du tout.
Du tout.
En plein radiothérapie, toute KO. Et j'étais là devant mon ordinateur en train de terminer ce que j'avais à faire.
Mais il ne faut pas prendre soin de soi à ce moment-là. S'écouter, écouter son corps et le laisser se reposer.
Oui, et ben, moi, peut-être que mon repos, justement, et mon salut, c'est d'être active.
Mm.
Je ne peux pas m'arrêter, c'est, mm-hmm. c'est impossible. Inconcevable.
C'est ça.
La machine ne peut pas s'arrêter.
Voilà, mais c'est ça. Mais est-ce que tu vas à contre-courant de ton corps?
Parfois, oui. Ah oui, oui, oui. Je l'ai épuisé. Je l'ai épuisé, je l'avoue.
Ouais.
Mais peut-être que j'en tire une satisfaction. Je me dis, oui, alors je suis utile. Il me c'est ça ce qui me rend forte et qui me laisse toujours debout, peut-être. Mm. Ou peut-être, je ne sais pas, peut-être.
Ouais. Avec la maladie, j'ai l'impression que c'est du cas par cas, en fait. Certaines ont besoin de s'arrêter et d'enfin écouter cette machine et de la laisser se reposer.
Mm-hmm. Mmh.
Mais d'autres, comme toi, n'ont pas envie et elles continuent. Mais s'arrêter, écouter sa machine, ça ne veut pas dire déprimer, en fait. Ça veut simplement
absolument
dire
pas,
se connecter
oui.
à son corps, c'est ça.
Bien sûr, bien c'est sûr. Ça. Bien sûr, c'est des choix, c'est des caractères,
ouais.
C'est des environnements, c'est des façons de vivre, etc. On m'a suggéré d'arrêter un petit peu et d'écouter mon corps. Et moi, j'ai dit, si je m'arrête, je meurs. Oh, ah. le médecin m'a dit, continue.
Oui, 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 voilà, c'est ça en fait.
Allez, vas-y, continue.
mais ton message principal, c'est ne pas perdre la foi, en fait. C'est que finalement, on dépasse,
jamais.
Voilà.
Jamais. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala et pas un accord qui n'est pas ricoché. Quand on croit en Dieu, on croit en soi.
Mm.
C'est sûr. C'est une condition sine qua non. On croit en Dieu, on croit en nous-mêmes. On a la foi en Dieu, on connaît qu'un chikoufnoussna. C'est pas logique.
Salma Al-Gharaghi, merci beaucoup pour cette belle conversation fraîche, dynamique et authentique. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir écouté, Yasmine. Merci
à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.